Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Ça va bien, Médiel Ganafi. Bonjour à tous. Comment ça va toi?
Ça va très 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 bien. Écoute, je suis frais, dispo. Je crois qu'il y a des gens qui ont cru que j'étais bourré il y a deux émissions. Mais tu sais, mais genre pendant l'émission.
Ils ont été un peu cavaliers, mais oui. T'aurais quand même assuré salement, franchement.
Salement. Bon, écoute, on va arrêter tout de suite ce fil rouge. Hein. Nous sommes à l'eau, toujours, et au chocolat chaud. Au programme de ce Red Alert, nous allons d'abord faire un état des lieux sur la santé de la PS5 et des Xbox Series, après la publication des derniers rapports financiers, et plus important encore, après la publication de leur bilan de fin d'année, parce que les bilans se clôturent fin mars pour Sony.
Ouais, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un truc sur le 3 la dernière fois.
Sur le 3, sur oui.
Ouais, mais en fait, j'avais déjà fait, je m'en suis rendu compte après coup, donc c'est pour ça que
tu t'es réécouté, tu t'es dit franchement, j'ai rien ajouté.
Voilà, donc écoutez le Red Alert, j'ai pas noté le numéro, mais c'est dans les 20, je crois, écoutez le Red Alert de l'époque, je pense que voilà, vous auriez, ça fera deux chroniques pour le prix d'une.
Toujours aussi pertinent. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous nous pencherons sur Burning Shores, le DLC du jeu Horizon Forbidden West. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un DLC? On verra tout ça ensemble. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle tu nous parlais des nouveaux mondes ouverts, et en l'occurrence le futur Zelda Tears of the Kingdom, et il s'avère que ce Tears of the Kingdom, bah, il est déjà dans la nature.
Déjà dans le wild, comme on dit, donc il y a des copies du jeu, alors de façon plutôt illégale, hein, qui se seraient déjà propagées dans la nature, et le jeu aurait même été déjà craqué, dispo sur PC pour les piratos des Caraïbes.
Ouais.
Ben voilà, donc faites gaffe à vous, comme on dit, hein, mutez les hashtags si vous voulez pas vous faire spoil. Déjà qu'il y a l'artbook qui a spoil quelques semaines en amont.
Oui.
On se rend compte, ça devient quasi systématique maintenant, les gros jeux, ben voilà.
Ça arrive tout le temps.
Beaucoup d'attention, donc évidemment beaucoup de gens qui vont essayer de gruger pour avoir plus tôt. Là, honnêtement, la rage de Nintendo, je pense, va être sans fin.
Ils ont commencé à se lever déjà.
Donc, je sais pas si ça valait le coup vraiment pour ces gens-là.
Ouais. Et pour nos linguistes sûrs, hein, comme on dit dans le coin, méfiat. Méfiez-vous.
Méfiat du Nintendo qui dort.
Allez, alors tu vas pas nous parler de Nintendo, mais tu vas nous parler plutôt de Sony et Microsoft. Un petit point sur la PS5 et les Xbox Series.
Tout à fait. Alors, comme le 3, j'avais déjà fait un point sur la next-gen. Il y a plusieurs numéros de Red Alert.
Mais attention, vraiment, mise à jour, là.
C'était vraiment le début. Voilà. Donc, là, voilà, c'est écoute la chronique, voilà, quand il y a les bilans financiers, c'est toujours cool.
C'est important.
De faire un petit point, voir où on en est. Donc, on va pas, évidemment, tout citer, tous les chiffres, on va pas vous assommer pendant une heure et demie. Mais les résultats qu'on a, de PlayStation et de Xbox sont assez intéressants. Donc, ça permet, évidemment, des réflexions plein de nuances, parce que c'est ça qu'on fait.
C'est bon, la nuance.
Et ça peut, évidemment, ça ne peut pas cacher certaines vérités qui vont un peu apparaître comme ça, quoi. Donc évidemment, vous nous connaissez, hein, ici on n'est pas dans les guerres de clochers, hein, on possède, on apprécie toutes les consoles, donc ce qu'on va dire, voilà, il y a des faits, il y a des analyses, mais c'est évidemment pas pour tirer à vue sur l'un ou sur l'autre. On compte sur vous pour entendre ça. Donc on va commencer par Sony, et là, bah, écoute, comment on le veut l'expression, tout va très bien, madame la marquise. Hein.
C'est les meilleurs, je déconne. Après le gros disclaimer, c'est...
Je plaisante. Donc, le raz-de-marée PS5 se poursuit, il prend même de l'ampleur, hein, maintenant que les stocks de consoles ont fait leur apparition dans les magasins. Et c'est bien simple, hein, sur la période de janvier à mars, donc premier trimestre de l'année, bah, personne n'avait autant distribué de machines ever, donc 6,3 millions de PS5 distribués, hein, pas vendus. C'est un record pour un constructeur sur cette période, voilà, donc hors période Noël et tout, la période de début d'année, c'est un record. Ce qui fait que bah, la PS5 aujourd'hui elle approche d'une base installée de 38,4 millions déjà. Franchement, on est déjà
quasi 40 millions. C'est énorme.
C'est assez ouf. Et donc maintenant que les consoles sont dispo, on peut enfin lire de manière un peu plus correcte, hein, la trajectoire de l'évolution de la console, bah, vu que la demande et l'offre se rencontrent enfin, ce qui n'avait pas été le cas pendant les deux premières années. Donc on se rapproche cette fois de la trajectoire de la PS4 qui à ce stade de sa vie est à 40 millions.
Oui.
Donc on est quasiment sur le même parcours. On a dépassé le niveau qu'avait la Switch, elle, à ce stade de sa vie. Donc après, c'est des chiffres à prendre pour ce qu'ils sont, parce que la Wii, par exemple, était bien plus au-dessus, et sa carrière s'est arrêtée bien plus brutalement. Ouais. La Switch a dépassé même le total de vente de la Wii.
Ouais, la Wii, elle s'est effondrée à un moment, mais la Switch, elle a une constance.
Voilà.
C'est pas sorti comme une balle, mais c'est vraiment constant, quoi.
Ça traduit juste un attrait immédiat, en fait, voilà, à bout de 2 ans et demi de vie de la machine, quoi. Alors, 40 millions de PS5, grosso modo, juste pour info, info marrante, Apple a vendu 72,3 millions d'iPhone au dernier trimestre 2022.
Donc, ouais.
Qui est considéré par tout le monde, 2022, comme une très mauvaise année pour les ventes. Donc voilà, 40 millions de PS5 en 2 ans et demi, 72 millions d'iPhone en 3 mois, oui, pour Noël. Donc voilà.
Ça remet un petit peu en perspective, quoi. C'est
voilà, on est là avec nos petites guéguerres. Attends, moi j'ai vendu 100 millions de machins, 50 millions de trucs. Ben, on voit que bon, on a quand même des marchés qui sont autrement plus, oui, développés, quoi. Le chiffre d'affaires de PlayStation sur l'année écoulée, donc faut savoir qu'il clôture en fin mars, hein, évidemment, oui, c'est de 24,4 milliards. Donc là aussi, un record pour un constructeur, une nouvelle fois. Et pour l'année prochaine, ils prévoient même une augmentation à 26,1 milliards, donc pour péter leur propre record. Okay. Donc ils anticipent ça pour l'an prochain, quoi. Par contre, on nous prévient que sur l'année à venir, hein, faudra pas s'attendre à une année ouf du côté des PlayStation Studios. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de sortie, hein. Il y aura forcément du Spider-Man 2, a priori. Mais, vu les chiffres qui prévoient, ça sera pas à l'avalanche de titres, ça sera pas comme on a pu connaître les années précédentes, quoi. Okay. On termine avec deux petites infos en vrac sur Sony. Donc, la barre des 500 millions de consoles de salon Sony a été dépassée. Okay. Là aussi, une première pour un constructeur, donc, de la PS1 à la PS5, 500 millions de machines.
Ok.
Ça commence à faire, hein.
Attends, première pour un constructeur?
Ouais. C'est le premier à dépasser cette barre-là.
C'est incroyable. Je pensais que Nintendo l'aurait fait, tu vois.
Ils doivent pas être très très loin. J'ai pas calculé.
Okay.
Et le groupe Sony, parce qu'évidemment, la PlayStation, ça appartient au groupe Sony dans son ensemble, lui, a généré 77,4 milliards d'euros cette année. Donc, grosso modo, le business PlayStation, c'est un tiers du chiffre de Sony cette année. On a connu des moments où c'était plutôt la moitié, donc on voit, ouais, que c'est un peu plus équilibré. C'est un peu moins dépendant, on va dire, de l'activité PlayStation, mais PlayStation, ça reste le cœur de l'activité de Sony, quoi. Mmh. En tout cas, et même s'il y avait plusieurs choses à leur reprocher, d'ailleurs, on l'a déjà fait ici, hein, on se rend compte que la nouvelle organisation de PlayStation, avec notamment Jim Ryan à sa tête, bah, elle semble avoir fait des choix qui portent leurs fruits au final, hein, et tout simplement parce que PlayStation cartonne. Mmh. Rien d'autre à dire, quoi. Du côté de Microsoft, on a eu droit à des chiffres qui sont relatifs au premier trimestre de l'année, donc de janvier à mars 2023.
Okay.
Donc, faut savoir que Microsoft, il clôture ses comptes fin juin. Donc, pas en mars, comme beaucoup d'entreprises japonaises, et pas en fin d'année non plus. Donc là, en gros, à la date où on parle, on est sur un exercice qui a 9 mois d'activité. Donc, il restera encore 3 mois pour clôturer une année.
Ok.
Et donc, sur ce trimestre-là, donc janvier à mars, la division Xbox atteint un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars. Donc, c'est du dollar, hein, ça fait environ 3,3 milliards d'euros. Donc, sur un trimestre, encore une fois. Et c'est tout simplement le second meilleur résultat de Xbox sur cette période. Donc là aussi, on voit que c'est plutôt positif, hein, plutôt une bonne nouvelle pour eux. Mm-hmm. Là aussi, pour info, le groupe Microsoft, dans son ensemble, hein, c'est 52 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre. Je sais pas si on se rend compte. Donc là, le chiffre du groupe Microsoft, en gros, c'est 15 fois l'activité de Xbox. Donc okay, on voit que le ratio entre, ouais, PlayStation, Sony et Xbox Microsoft est pas du tout le même. Donc, Xbox a atteint un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année fiscale. Mm-hmm. Donc, pour rappel, Sony, c'est 24 milliards sur une année, c'est un record. Là, on est à 11 milliards sur 9 mois.
Okay.
Donc, pour donner un peu une comparaison, quoi. Et voilà, donc à la vue de ces chiffres, on peut vraiment parler d'une période qui est réussie pour Xbox. Je pense que c'est compliqué de dire le contraire. Par contre, toujours pas de mise à jour des chiffres du Game Pass, hein, qui sont toujours arrêtés à 25 millions au dernier comptage, qui était en janvier 2022. Donc, ça commence à faire un petit moment maintenant.
Ouais.
Mais au-delà de tous ces chiffres, il y a quand même un indicateur qui vient un petit peu interpeller. C'est que le segment hardware de Xbox, donc, bah, il voit ses chiffres chuter de 30%, en fait, en raison de la baisse du nombre de consoles Xbox Series vendues. 30%, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs moyens de lire un petit peu cette baisse, hein. On pourrait imaginer que, bah, les problèmes de stock chez Xbox sont pas encore résolus. On voit que, bah, Sony, lui, a résolu ces histoires-là et donc la console est disponible. Peut-être que Xbox a encore du retard sur ses chaînes de production. Ça, c'est une hypothèse. Peut-être aussi que, bah, cette baisse de demande est à mettre en relation avec la disponibilité retrouvée de la PS5.
Forcément.
Parce que c'était envisageable que, bah, devant la frustration des joueurs de pas avoir telle console, ben, tu essaies de choper celle d'en face, quoi. Donc, quand il n'y a pas d'Xbox, tu chopes une PlayStation. Quand il n'y a pas de PlayStation, tu chopes une Xbox. Et je pense que le fait d'avoir des PlayStation disponibles aujourd'hui, ben, peut-être que ça va faire baisser mécaniquement les ventes de Xbox. Faut quand même nuancer la baisse de hardware, hein, parce qu'on le sait, c'est plus une donnée aussi capitale qu'avant, en tout cas pas aussi capitale que la concurrence pour Xbox, parce que on voit que Microsoft fait tout ce qu'il peut depuis des années pour permettre aux joueurs de jouer voilà leur jeu et de jouer au Game Pass sur, bah, toutes les plateformes autres que Xbox, en mm-hmm. fait. Donc, que ce soit, bah, PC, smartphone, téléconnecté. Donc, on sait que leur cœur d'activité n'est plus forcément sur le hardware.
Mais ça reste quand même un indicateur intéressant, dans le sens où, pour moi, si t'as une baisse de console, la raison la plus évidente, c'est le manque de jeux, tout bêtement. Oui. Et on va y revenir dans deux minutes, quoi. En tout cas, bah, pour ces chiffres, hein, que ce soit sur PlayStation ou Xbox, on constate qu'il n'y a pas vraiment de perdants. Tout le monde est en forme, tout le monde bat ses propres records, tout le monde fait de l'argent, y compris Nintendo, donc on n'en parle pas aujourd'hui, hein, mais Nintendo va très bien. On voit
Nintendo
que
va très bien.
Le film Mario a pété le milliard, on le sait. Et surtout que Nintendo est dans un rythme qui est en complet décalage avec les autres. Là, on est plus au début de la fin de la vie de la Switch, on va dire. Donc, c'est compliqué un petit peu à comparer aux autres consoles, quoi. On revient un petit peu sur cette histoire de manque de jeux chez Xbox. Hein. Donc, on a dit la statistique de la baisse des ventes de la machine, même s'il faut la nuancer, c'est assez inédit, hein, pour quelque chose qui apparaît aussitôt dans un cycle de vie d'une console. Parce que bon, les chiffres, hein, c'est une chose, hein, mais le plus important, évidemment, c'est les jeux. Et Phil Spencer, hein, lui-même l'a reconnu, hein, donc le boss de Xbox, bah, la Xbox, elle manque de gros jeux first party, donc si même lui le dit, je pense qu'on peut pas trop le contredire. Et on en a parlé, hein, en 2022, dans le bilan de l'année, il n'y a eu aucune sortie de AAA first party Xbox sur 2022, si on met de côté l'arrivée en 1.0 de Grounded. Alors j'ai beaucoup aimé Pentiment, hein, le jeu, je vous en ai parlé, mais on n'est pas sur du AAA, on n'est pas sur le profil de jeu qui fait acheter des consoles. Et c'est ça que recherche évidemment chaque constructeur, quoi. Alors où sont-ils ces jeux? Ben, on peut se poser la question, parce que incontestablement, ben, je pense qu'il y a un souci en interne au niveau de la production. Tu vois, si on prend par exemple les trois studios un peu amiraux maison de Xbox, on va dire, donc ceux qu'ils ont fondés de zéro et qui leur appartient, bah chacun a connu des problèmes. On a eu chez 343 Industries, bah, le fiasco Halo Infinite, hein, je pense qu'on peut parler de fiasco à ce stade-là, même si le jeu reste correct, on en a parlé ensemble. The Coalition, là, aux dernières rumeurs, il y aurait deux projets killés en interne qui étaient des nouveaux projets qui développaient. Et donc, finalement, ils repartent sur un Gear 6. Donc, voilà, ça change pas trop la formule. Et The Initiative aussi, qui est à l'œuvre sur Perfect Dark, là, qui a demandé l'aide de Crystal Dynamics, donc, d'un studio externe pour bosser. Là, ouais, comme tu dis, c'est étonnant. Donc, ces trois studios-là, je trouve déjà, ça donne le ton un petit peu, parce que c'est des purs produits Microsoft, quoi. Donc, est-ce qu'il s'agit peut-être d'un problème de leadership? Est-ce qu'il y aurait pas peut-être un changement nécessaire à opérer à la tête de Microsoft Game Studios? Donc, on a Matt Booty qui est en place depuis 5 ans et demi. Et pour des résultats, honnêtement, qui sont pas ultra reluisants. Si on compare, par exemple, à PlayStation, qu'il s'agisse de l'ère Shuhei Yoshida sur la PS4, ou là, de l'ère Herman Hulst qui a commencé sur la PS5, qu'on aime ou pas les jeux proposés, hein, c'est pas le débat, mais c'est cadencé. Oui. Il y a de la quantité. Et après, que je dis, on aime ou pas, mais quand même, au vu des notes, au vu des métriques critiques, il y a quand même aussi de la qualité, faut pas se mentir, quoi. Oui. Donc, évidemment, il s'agit pas de dire que tout est la faute d'un seul mec, hein. C'est pas un homme qui peut être tenu comptable des soucis d'autant de sociétés, hein. C'est un problème plus profond. Mais un changement de leadership, ça peut apporter un nouvel allant, ça c'est indiscutable. On se rappelle quand Phil Spencer est arrivé à la tête de Xbox, il a vraiment, rechangé un peu la stratégie, il a apporté vraiment un vent de fraîcheur, donc, l'apport d'un homme peut faire bouger les choses. Donc là-dessus, à voir. J'ai pas l'impression que ce soit trop discuté, sa place sur l'entreprise. Je sais pas si
de Phil Spencer?
De Matt Booty.
Ah, de Matt Booty, non, on parle que de Phil Spencer. C'est lui, la figure de proue.
Ouais, il incarne la marque Xbox.
Alors que, c'est pas Herman Hulst.
Non. C'est ça le truc. Voilà, lui, il gère Xbox dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est l'avancée sur le cloud gaming, le Game Pass. Il est sur des problématiques qui sont beaucoup plus larges. Celui qui est à la tête des Microsoft Game Studios, c'est vraiment Matt Booty, oui, quoi. En plus, coïncidence, hein, à l'heure où on enregistre, on a une actu qui est pas très reluisante qui est arrivée. C'est cette semaine, en fait, on a eu les tests qui sont tombés de Redfall, et donc le jeu de Arkane Studios, et les tests qui sont très très mitigés, hein, pour ne pas dire plus. Pour le coup, c'est vraiment pas de bol niveau timing, hein, parce que les jeux Arkane ont toujours été loués pour leur qualité. Oui. Et là, pour le premier qui est exclu Xbox, il est décevant. Là où un Deathloop qui avait été signé en scrut par Sony pour sa PS5, il avait lui plutôt convaincu, quoi. Donc vraiment là, c'est pas de bol. Heureusement que Bethesda avait proposé, par surprise, Hi-Fi Rush en début d'année. Ça vient un petit peu équilibrer la balance cosmique, quoi. Mais finalement, on a reproché par le passé souvent à Xbox d'être trop intrusif, tu vois. Quand ils rachètent un studio, de le détruire, vu ce qui s'est passé avec Rare et tout. Et c'est vrai qu'ils ont cette image-là qui porte toujours. Hein. Mais finalement, peut-être qu'ils sont pas assez intrusifs, et c'est peut-être ça le souci. Alors certes, Bethesda, ils ont l'air d'avoir quand même une indépendance en interne. Le rachat est tout frais. Il n'y a pas encore eu la fusion vraiment parfaite des équipes. Bethesda a quand même son indépendance. Mais est-ce que ça aurait pas été le rôle de Microsoft, voyant l'état du jeu, de dire « les gars, écoutez, on a besoin de plus de temps. Ce jeu-là, on va le repousser. On attend, on tank pour que le jeu soit bon au final. » Ou alors peut-être que Microsoft, finalement, ils ne croyaient pas trop au projet, hein, qu'ils ont décidé de le bazarder. Mais est-ce que là, les dommages qui sont faits en termes d'image, est-ce que ça valait le coup au final?
Ouais, je suis plus seconde option. Je pense que c'est
ce qui se murmure un petit peu. Ouais.
C'est un jeu qui a été signé avant le rachat, donc qui faisait partie du bundle. Donc ils ont pris Bethesda avec Redfall entamé, même la version PS5 qui aurait été killée, abandonné pour en faveur d'une exclusivité, et c'est peut-être une philosophie de jeu ou un type de jeu qui les intéresse pas et qui ils veulent s'en débarrasser pour passer à autre chose.
Après,
ça m'étonnerait
pas. Du jeu coop online et tout, c'est quand même le profil qu'on pourrait attendre peut-être des jeux Game Pass. C'est un petit peu étonnant, je trouve.
C'est étonnant, oui.
En tout cas, heureusement, malgré tout, hein, que Bethesda est là pour tenir la baraque en 2023, parce qu'ils vont sortir trois jeux. Donc, Hi-Fi Rush, on l'a dit, Redfall et Starfield qui arrivent en septembre. Parce que, encore une fois, au niveau du reste des Xbox Game Studios, encore une fois, t'auras du Forza en fin d'année, et c'est tout pour l'instant.
Attends, donc, on sait pas.
On sait pas.
On espère.
Mais c'est vrai que t'as toujours l'éternel soldat Forza. Donc là, on a eu l'Horizon il y a deux ans. Là, c'est le reboot du Forza Motorsport.
Ouais.
Heureusement que la licence Forza, c'est un peu la seule qui tient son rang chez Microsoft.
Ouais.
Mais là, si t'avais pas racheté Bethesda il y a quelques temps, t'aurais encore rien du tout, quoi.
Ouais. Mais ça, je suis super d'accord avec toi. Bethesda, c'est le dernier rachat en date, officialisé, on va dire, hormis Blizzard. Mais sans eux, là, il y aurait pas Hi-Fi Rush, il y aurait pas le grand sauveur de Starfield de la fin d'année. Il se passerait quoi? Enfin, tu vois, dans les 23 studios, il y a pas que Bethesda, quoi. À un moment,
deux années sans exclu triple A games, on n'est pas loin de la cata, quoi. En tout cas, tous ces débats interviennent avec en toile de fond des questions qu'on se pose habituellement sur le Game Pass. Et parmi elles, je pense qu'il faut pas que le Game Pass devienne une espèce d'excuse pour balancer des jeux bof ou à moitié finis comme Redfall, en se disant, de toute façon, les gens le payent pas, ils vont y jouer un peu, et voilà. Donc, enfin, tu vois, faut pas que ça devienne un peu le dépotoir, parce que tu te dis, les gens payent pas là-dessus, donc ça, c'est déjà la première chose, quoi.
Payent pas, ont pas la sensation de payer, en fait.
Voilà. Parce qu'en plus, le jeu, si tu le prends à l'unité sur Xbox, il coûte 80 balles. Hein, Redfall, ouais, c'est le premier jeu à 80 balles.
Okay.
Deuxième point aussi, c'est Starfield, t'en parlais, qui se retrouve avec une pression dingue. Pour la fin d'année, je pense qu'on se rend pas compte. C'est vraiment le banger de Microsoft sur l'année. Là aussi, on sait que le développement a été compliqué, que l'équipe de Todd Howard, c'est pas les derniers niveau bug, niveau sortir un jeu mal fini. Si Xbox vraiment y déçoit avec ce jeu, le débat il sera autrement plus salé que ce qu'on est en train de vivre sur Redfall. Ouais. Là, je pense que ça sera avec une ampleur vraiment rien à voir. Imagine, il repousse d'un an, ce qui serait peut-être une bonne chose et nécessaire, mais là aussi, imagine le shitstorm. Je vois mal une situation où Xbox est gagné en septembre avec la sortie de Starfield, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Je sais pas s'ils peuvent tanker encore une année sans gros AAA de Noël. Enfin, il y a au-delà de pas avoir de AAA dans l'année, c'est pas avoir de AAA à Noël. C'est l'année, c'est le moment de l'année qui est fondamental. Là, une année de plus, tout Microsoft qui sont, ils ont quand même une unité, enfin l'unité Microsoft au sein de l'unité Xbox au sein de Microsoft, qui est pas du tout PlayStation chez Sony, hein, c'est vraiment en marge. Est-ce que là, à un moment, Microsoft, ils vont pas arrêter de dire bon, on alimente, on a fait 70 milliards, potentiellement 70 milliards sur Blizzard, c'est énorme, quoi. Enfin, à un moment, il faut.
C'est vrai qu'on a fait, on a montré de la patience auprès d'Xbox pour les sorties de jeux et tout. Ils viennent de racheter, faut que ça se mette en place et tout. Mais là, enfin, je pense qu'il est temps d'adopter un discours un peu plus virulent. Il faut qu'ils envoient du jeu, quoi. Ça y est, enfin, il n'y a plus vraiment d'excuses. Surtout qu'on en a déjà brièvement parlé tous les deux dans une autre émission. C'est cette impasse du Game Pass, en fait. C'est-à-dire que le Game Pass, tu pourras pas revenir en arrière là-dessus. C'est un peu la dernière cartouche de Microsoft. Donc, soit ça marche, soit ça passe, soit ça casse, quoi, en fait. Donc, tu l'as dit, tant qu'Xbox, ils ont le soutien de Microsoft. On l'a vu avec les rachats d'Activision. T'investis pas potentiellement 60 milliards si t'es pas investi sur le long terme avec ton projet.
70, t'oublies 10 milliards.
Ouais, donc, il y a au moins 10-15 ans assurés en termes de soutien à Microsoft. Mais
ah oui, c'est sûr.
Imagine s'il y a un changement de présidence au sein de Microsoft ou que la branche Xbox a vraiment une régression financière. C'est pas impossible que la situation change, en fait, et qu'ils décident d'arrêter les frais, quoi.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le Game Pass. Quand tu parles d'impasse, c'est assez bien trouvé. Parce que ils sont piégés, ils ont fait une offre qui est hyper attractive avec une promesse non tenue de fournir tous les jeux AAA exclusifs et first party sur le Game Pass en day one, ce que ne fait pas Sony en continuant à faire payer les gens, mais en proposant au même prix qu'un Game Pass leur PlayStation Plus. Eux, ils peuvent plus revenir en arrière. Et peut-être qu'ils en rêvent, peut-être qu'ils se disent il faudrait que maintenant les gros jeux ils soient financés par les joueurs avec l'achat à l'unité, et on fait un Game Pass à côté périphérique où on va justement alimenter.
Maintenant que les joueurs l'ont adopté, tu pourras pas changer ton fusil d'épaule là-dessus, et s'il le ferait, ça serait très très mal vu. Et c'est vrai que là, la fin, c'est un peu catastrophique. On dit Xbox pourrait être arrêté si Microsoft voit qu'il a plus trop d'intérêt. Mais on voit les géants de la tech, hein, Google et tout, des fois, tu peux avoir des décisions d'une importance capitale qui sont prises, je vais pas dire sur un coup de tête, mais du jour au lendemain. Et là, voilà, vu le peu d'importance que représente Xbox au niveau de Microsoft, bah, si on voit que ça commence à devenir problématique, bah, peut-être qu'un jour, voilà, là, il y a Satya Nadella, le président de Microsoft, qui soutient à fond. Mais si demain il change de président et que le nouveau il est là en mode mais le jeu vidéo on arrête quoi.
Oui.
C'est pas du tout la tendance parce qu'on voit au contraire que tous les géants de la tech ils veulent aller sur le jeu vidéo parce que c'est un secteur florissant.
Oui, porteur au niveau de l'image aussi.
Au niveau du cloud aussi qui est le futur, bah, c'est un secteur très important à ce niveau-là, donc y a pas à s'inquiéter du tout, mais on était toujours voilà dans le côté excuse en attente, ça se met en place, Spencer vient d'arriver, mais non là ça y est, Spencer ça fait 6-7 ans qu'il est là peut-être. Mmh. Ou là les jeux, il faut y aller quoi. Enfin t'as 23 studios, je sais plus combien en interne.
23 ou 25, je sais plus.
Tu peux pas te dire on fait quasiment 2 années blanches quoi, ouais. C'est pas possible.
Là j'ai aucune idée de ce qui se passe au niveau des studios, hein. Je pense qu'il y a pas grand monde qui est au courant, mais le rachat de Blizzard a aussi son importance, c'est-à-dire qu'ils sont en train de gaspiller énormément d'argent sur une restructuration général. Tu l'as dit tout à l'heure, Bethesda, la fusion, elle n'est pas encore effective à 100%. Mmh. Et là, depuis un an, ils sont aussi en train de préparer le rachat de Blizzard. Et ils dépensent des millions pour
ça. De l'argent, du temps, de l'énergie.
Et ça va peut-être pas se faire. Mmh. Donc, il y a vraiment une mobilisation d'énergie et d'argent qui est importante sur ce rachat. Ça focus plein de gens. C'est peut-être ça qui leur fait perdre du temps. Mais ce Game Pass, moi, j'ai peur que ça soit en fait un échec total dans le sens où il n'y a pas de communication au niveau des abonnés. Alors il y a eu le 20-25 millions. Mmh. Allez, vas-y, je le double. 50 millions. Imagine qu'on soit aujourd'hui à 50 millions. Quand tu compares aux abonnés Spotify, Netflix, Disney+, c'est rien. 50 millions, c'est un... Enfin, les chiffres sont... C'est risible. Quand t'es sur 200 millions sur Netflix, ce genre de truc... C'est incroyablement bas.
Oui, mais après, je pense que Xbox ne vise pas l'équivalent Netflix ou Spotify parce que c'est quand même plus spécifique le jeu vidéo.
Crois-tu? Enfin, en termes d'utilisateur.
Netflix, ça touche beaucoup plus un grand public, la musique aussi. Tout le monde regarde Netflix, tout le monde écoute de la musique. Là, ouais, mais le jeu vidéo, je trouve ça, on est encore sur un niveau en dessous, quoi.
Ouais, mais je pense au contraire que le jeu vidéo est censé être autant grand public dans le sens où on a eu les stats là. Le joueur moyen a plus de 35 ans, il a même plus de 50 ans parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de 50 ans qui jouent sur mobile. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très répandu. Il y a autant de gens qui jouent, qui regardent Netflix, sauf que le Game Pass, il n'a pas réussi à être populaire. Le Game Pass, il n'a pas réussi à être grand public. Tu vois, nos parents, ils savent pas ce que c'est le Game Pass, ils n'ont pas de console, ils n'ont pas de même l'appli, ils n'en ont aucune idée. Et je parle même pas de nos darons, je parle de nos amis qui ont pour eux le jeu vidéo comme, mmh. comme un loisir, comme un autre. Ils ont Netflix, et oui, en fait, oui, ils n'ont pas réussi. Le truc, c'est que quand je parle d'échec, c'est en termes de chiffres, je trouve que c'est bas, moi. Et surtout, ils n'ont pas réussi à percer ce plafond vert du grand public. Le Game Pass, aujourd'hui, c'est pas du tout une évidence, ne serait-ce que dans son existence.
En tout cas, oui, je suis d'accord, Xbox a un déficit d'image, au moins en France, en Europe, peut-être pas aux États-Unis, mais au moins chez nous. Et comme tu dis, je pense que les gens ne sont même pas au courant que Game Pass existe.
C'est pour ça que les considérations qu'on a en disant il faut plus de jeux, il faut plus de jeux AAA, tout ça, franchement, c'est même pas le problème. C'est-à-dire que le grand public n'a pas conscience que le Game Pass existe. Le grand public ne sait pas ce l'offre de jeux qu'il y a dans le Game Pass.
Donc. Ouais, mais est-ce que ça viendra pas des jeux, justement? C'est les jeux qui peut-être. Te créent l'excitation, que tu dis, ah, ok, c'est quoi ce truc? Attends, je peux pas avoir un service si je paye, j'ai le jeu gratos, enfin, entre guillemets.
En bélier, ouais.
Après, pour revenir sur l'histoire des chiffres, Spotify, Netflix, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de la comparo de l'iPhone. C'est que tu prends, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais chaque génération de machines, si t'additionnes toutes les ventes de consoles, on est quoi? 200 millions? Si tu prends Xbox, Sony, Nintendo?
Ouais.
200 millions, c'est à peine les abonnés de Netflix, donc c'est que le jeu vidéo, alors je vais pas dire c'est pas une niche évidemment, mais ça reste quand même un secteur qui est beaucoup moins générateur d'abonnés potentiel que le cinéma ou la musique aujourd'hui.
C'est là où Microsoft essaye de s'en extraire de ça. Oui. Quand ils proposent à terme l'application sur les télés.
Ah non, mais c'est exactement le but.
Ouais, mais là vraiment, peut-être qu'ils sont vraiment extrêmement visionnaires, mais le chemin à parcourir est tellement long que est-ce que Microsoft va laisser survivre Xbox? Le temps de ce chemin.
C'est la question.
Ils ont peut-être raison. Mmh. Comme ils avaient raison sur la Xbox One, avec le démat, avec la fin du lecteur mécanique et tout. Ils avaient raison. Et peut-être qu'ils ont encore raison, là. C'est juste, est-ce qu'ils vont avoir le temps de déployer leur stratégie? Et être à contre-temps tout le temps, excuse-moi, mais c'est pas être bon. Enfin, le timing, c'est la clé pour tout. Donc, être trop visionnaire, c'est aussi vraiment un déficit de vision, quoi.
Ouais. Mais comme on l'a dit, l'engagement sur le rachat d'Activision, qu'il soit validé ou pas, montre qu'ils sont prêts à se laisser le temps. On va juste voir cette patience, du coup, elle va aller, quoi.
C'est vrai que Microsoft, quand ça débourse 70 milliards, c'est que tu crois un minimum, quoi. On verra bien. Écoute, on n'est pas spécialement... Les chiffres sont positifs, ça va bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, que ce soit pour Sony, Microsoft ou Nintendo.
Ouais.
Mais bon, il y a, enfin, moi je suis d'accord, c'est un petit peu, je suis un petit peu plus piquant envers Microsoft et le Game Pass parce que je trouve que ouais, ça.
Ouais, puis bon, ces jeux, ils viendront forcément, fatalement, et je pense que quand ça va commencer, on aura un flux ininterrompu parce qu'ils vont tous arriver en même temps. C'est juste que là, cette période de latence, d'attente, elle est beaucoup plus importante, je pense, que tout le monde l'avait imaginé, quoi.
Ouais, mais tout à l'heure, je crois que t'as parlé, t'as dit sur la récurrence des jeux qui a baissé. C'est juste, moi, je dirais même qu'elle a jamais commencé. Enfin, depuis que la Xbox, que les séries ont commencé avec ce fameux Master Chief qui était sur le bois de la console et tout, il a fallu attendre parce qu'il a été reporté. Ça a jamais commencé.
Ce flux de séries, non, jamais.
C'est ça le truc. Donc, est-ce qu'ils vont se la jouer ketchup et d'un coup, boum, ça va sortir et tout d'un coup, franchement,
je la joue ketchup. J'aime l'expression.
Mais tu l'as, l'image.
Ouais, carrément.
Ça sort d'un coup. Écoute, merci pour ta chronique. Ça fait plaisir d'avoir des news de tous ces chiffres et un petit peu un éclaircissement sur ces bilans qui sont à première vue pas très reluisants, enfin pas très simples à lire. Mais donc là maintenant, on a une bonne vision. Il est l'heure de l'interlude de top 3, un top 3 qui la semaine dernière nous a pris la tête.
Ah, et c'était compliqué, c'était pas facile.
Donc on s'est dit cette semaine, on en fait un petit peu concon. Et c'est ta proposition, donc j'ai pas forcé.
Mais pourquoi? Parce que sorti de la compilation Pixel Remaster des Final Fantasy, j'ai pensé hier, c'était pas du tout l'idée. Donc on va faire un top, notre top 3 des Final Fantasy. Voilà, il y a pas de sous-texte, il y a pas de deuxième lecture, c'est évident, l'évidence même.
On est dans le top 3 101.
Voilà, c'est ça qu'on veut.
Ça fait plaisir. Vivement le top 3 de nos couleurs préférées. Ça serait vraiment excellent. Écoute, ben vas-y, balance le top 3 de ton...
Alors, je préviens, je vais faire un peu l'ancien, mais c'est pas volontaire. C'est que je n'ai pas fait tous les FF, déjà. Et voilà, donc, mais je sais pas pour faire le beau. Mais voilà. Donc, mon numéro 3, c'est FF4. Final Fantasy IV, qui est simplement le premier FF que j'ai terminé. Donc, okay. Et donc, comme souvent, ben, t'en gardes un souvenir impérissable. Et donc, une aventure... enfin. Vous allez voir la suite de mon top, mais je le mets presque au niveau du numéro 2, moi.
Ah, tu m'en parles souvent, ouais, voilà. C'est coup de cœur parce que c'était le premier, quoi.
Voilà, et j'en garde un souvenir incroyable, les musiques, bah, l'histoire, Ceci, Rosa, Kane, tout ça, quoi.
T'avais refait le DS?
J'avais refait le début, j'avais joué une dizaine d'heures, et c'est vrai que la difficulté de mémoire était au rendez-vous, comme la version originale aussi. Et, mais bon, c'est vraiment un RPG, voilà, où tu butes le boss, il te reste 3 points de vie, donc t'as ce sentiment un peu d'exaltation. Mais voilà, ils avaient ces petits modèles 3D un peu chibi sur DS. Je serais pas contre qu'ils le ressortent, hein, pourquoi pas. Par contre, je n'ai jamais fait la suite, parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'il y a eu FF4 After Years, non?
After Years.
Qui est une suite, à FF4, avec le même style graphique et tout. Avec les enfants des héros et tout. Donc, j'ai jamais joué. Je sais pas si ça vaut le coup, dites-moi si vous l'avez fait.
Tu as un FF4 qui t'attend, si un jour tu as l'envie. Écoute, moi pour mon top 3, c'est Final Fantasy XII. J'adore le monde d'Ivalis, j'adore le système de gambit et de combat de FF12, je trouve vraiment incroyable, et même si pour moi la malédiction des Final Fantasy cassés a commencé avec FF12, c'est vrai qu'on parle souvent de 13 et 15, mais vraiment tu as le départ de Matsuno, le fait que le jeu il est complètement déséquilibré,
c'était
avec
compliqué, ouais.
Un début et une fin avec beaucoup de narration et 80 heures au milieu de gameplay pur, le jeu est un peu cassé, quoi. Et donc ça a commencé à FF12, mais malgré tout, moi c'est un FF que j'adore sa conclusion, je la trouve super touchante. Bon, son héros, c'est pas Van, c'est pas le plus grand des héros, mais il y a une équipe incroyable, Baltier, tout ça, c'est quand même...
C'est Fly le plus grand des héros, de toute façon.
C'est Fly
le plus grand. C'est vrai que toi qui aimes passer du temps dans les menus, FF12, c'est peut-être un FF les plus focalisés là-dessus. J'adore. Moi, c'est vrai que je l'ai fait dans son édition Zodiac Age, donc qui avait déjà été affiné, qui avait rapporté des idées aussi que Matsuno avait, qui n'avait pas pu être inclus dans le jeu de base. C'est vrai que c'est un FF à part, particulier, mais moi j'adore sa DA et son univers, quoi, vraiment.
Carrément. Est-ce que quand tu repenses à ton FF12, tu vois les gens courir vite?
Oui. Parce que effectivement, je jouais avec le x3 pour traverser les plaines.
Et tu l'as fini quoi, en 40 heures? Même pas? Moins?
Ah, ouais, je crois, 40 heures, ouais. Alors, toi, tu as passé combien de temps?
C'est beau. Celui-là, je crois que c'était un des... Est-ce que je l'ai
oui,
dans mon top 3?
Oui, dans ton top des jeux les plus longs.
100 heures, ouais. Allez, ton top 2.
Mon top 2, évidemment, FF6, l'éternel, l'ultime, le fabuleux FF6. Donc, c'est là où je dis que FF4, je le mets presque au même niveau.
Okay.
Mais FF6, c'est juste FF4, un petit peu mieux, plus de persos, une histoire encore meilleure, des musiques encore meilleures, un peu plus touchant, un peu plus long, avec cette aventure découpée en deux. Enfin, là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur FF6. Hein. Ça a été peut-être le meilleur FF pour beaucoup pendant des années et des années. Ouais. Je pense qu'il n'a pas vieilli aujourd'hui. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de lancer les Pixel Remaster, mais je pense que tu le lances demain, t'es à fond comme au premier jour, quoi.
Il est culte, FF6, carrément. Pour ma part, en deuxième position, je commence à tricher. Non, c'est FF8 et 9. Parce que
allez,
Quelle
est l'excuse?
Mais en fait, les trois FF de la PlayStation 1, pour moi, c'est une sorte de trilogie intouchable. Et j'arrive pas, en fait, à me décider entre FF8 et FF9.
C'est un effort.
Franchement, j'arrive pas. Entre FF8 et FF9, je les adore tout autant. Et donc, ouais, cette période dorée...
Ils sont pourtant très différents.
Ils sont de ouf, très différents. Et même le troisième, hein, mais ces trois sur PlayStation 1...
Le troisième dont on ne doit pas dire le nom.
On ne doit pas le dire le nom. Le troisième. Mais bon, je te laisse peut-être parler de ton top 1. Quel est-il? J'espère,
écoute,
je ne sais pas.
Mon top 1, c'est celui dont on ne doit pas dire le nom. FF7, parce que.
Ça fait plaisir.
Voilà, faut arrêter, tergiverser, faut arrêter, machin. C'est vrai que t'as eu un temps où c'était un peu mal vu que FF7 soit ton préféré parce que t'es pas un vrai, machin. FF7, c'est le meilleur, c'est tout.
Ça s'est un petit peu calmé, mais vraiment, t'as raison, il y a eu un temps où c'était carrément lame de dire qu'on aimait FF7.
Ouais. Meilleure histoire, meilleur rythme au niveau de l'aventure, un univers complètement ouf et nouveau. Enfin, on voit tout l'impact qu'il a eu. Je crois que c'est le plus vendu, évidemment. Oui. On voit aussi tous les dérivés qu'il a engendré. Mm-hmm. Et même d'autres encore plus récemment aujourd'hui. Donc, FF7, quoi.
Et moi, en première position, j'ai pas le droit de le nommer. Du coup, je vais nommer FF7 Remake. Mais je triche qu'à moitié, parce que vraiment, FF7 Remake, je le mets pas sur la même position du podium, mais je l'adore de ouf parce que il a tout simplement le meilleur système de combat, vraiment de incroyable. Tous les FF, moitié tour par tour, moitié système plus action, plus dynamique, et je trouve que toute la relecture qu'il propose, c'est assez unique dans le jeu vidéo. On peut penser à Silent Hill, Shattered Memories, mais il y en a vraiment très 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 peu.
J'ai rarement eu un remake qui a eu autant de pression sur les épaules et qui a delivers, comme on dit, qui a assuré, exactement.
Carrément. Et donc on attend pour l'année prochaine ou le Next Winter,
c'est décembre.
Bah écoute, vivement le Rebirth. Et j'espère que je serai tout aussi conquis par la suite et les deux suites à venir, la trilogie.
Mais tu flippes un peu.
Je me fais dessus, mais j'ai pas parlé de FF7. On a réussi. Écoutez, n'hésitez pas. Et là, cette fois, j'espère que vous allez être nombreux à balancer votre top 3 des Final Fantasy. Le prochain top 3 interlude, on va refaire un truc un petit peu tarabiscoté, quoi. Quand même, il faut qu'on.
On l'a choisi déjà?
Non.
Ah, j'ai déjà oublié.
On l'a pas encore choisi, mais on va essayer de faire un truc.
Ouais, un truc plus.
Cette fois.
Ouais, mais c'était rigolo aussi, des fois.
Ça fait plaisir. Voilà. Des fois, il faut pas se poser de questions.
Pas de débat, pas d'embrouille.
Top 3 des FF. On y va. Écoute, pour ma part, sur ma chronique, avant de commencer, je me tourne vers toi parce que j'ai décidé de pas foutre grand chose aujourd'hui. Avec un retour sur ton expérience sur Horizon 2 parce que tu l'as terminé très récemment.
Oui, alors, ça fait partie de ces jeux qui m'étaient tombés des mains, mais genre, j'étais à 3 heures de la fin, je pense. Et là, j'ai eu une petite envie d'aller finir un peu des dossiers en cours, donc j'ai repris ma partie, ma sauvegarde, et que j'ai terminé. Donc vraiment, voilà, j'étais à 3 heures de jeu à peu près de la fin.
T'as réussi à t'y remettre?
J'ai réussi à m'y remettre. En fait, c'est en voyant les images du DLC où je me suis dit, putain, c'est vrai qu'Horizon 2, c'est quand même un jeu magnifique. Peut-être le plus beau jeu du monde aujourd'hui. Enfin, en tout cas, en termes d'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Et ça m'a donné envie de replonger un peu dans cet univers. C'est pas tant pour le gameplay tout que j'y suis retourné, mais j'avais envie de revenir un peu dans l'univers d'Horizon, quoi.
Est-ce que, ça a été mon cas sur le DLC, de se remettre au jeu tranquillement, sans la pression d'avoir ou la chronique ou d'être dans l'actu, parce que quand on a cette actu autour d'un jeu, ça fait tout le temps plaisir d'être dans la hype, tout le monde en parle, mais être hors actu aussi, c'est cool, parce que du coup, t'es vraiment dans ta temporalité à toi, t'es au calme et tout. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Parce que moi, sur le DLC, j'ai complètement apprécié ça.
Carrément, tu joues en mode beaucoup plus chill et je trouve que t'apprécies plus parce que les gens pourraient dire, mais c'est débile, vous mettez une pression, faut être dans l'actu et tout. Mais t'as aussi ce côté, une nouveauté, un jeu, t'as envie de le finir, t'as envie d'avancer pour avoir la conclusion de l'histoire.
Ouais.
Et c'est que là, de le jouer complètement détaché de tout ça, tu profites différemment et c'est vraiment cool comme sentiment, quoi.
Donc aujourd'hui, on va parler de Burning Shores, le DLC de Horizon Forbidden West. On va parler de ce DLC. On attend quoi, en fait, d'un DLC? Parce que bon, c'est un petit bout d'aventure, qui nous a été donné, qui nous est proposé, quelques mois après la sortie d'un jeu. Quelles sont nos attentes face à un DLC? Et pour analyser tout ça, on va se poser 3 questions. Le 3 de Zelda, le 3 de Nintendo, ça fait toujours plaisir. Alors, première question. Est-ce qu'en achetant un DLC, on attend de la nouveauté? Et si c'est le cas, celui de Burning Shores devrait vous satisfaire. Il y a pas mal de choses en plus par rapport à Horizon 2, mais il y a un truc qui est assez remarquable, c'est que ces nouveautés, elles sont bien réparties dans le DLC. Et mieux, ces nouveautés, elles sont toujours utiles dans une quête, qu'elle soit principale ou secondaire. Et ça, Nico, c'est quelque chose que t'as un petit peu déploré dans Chia, par exemple, que tu as des possibilités, mais hop, on t'en parle pas dans la quête principale, même dans les secondaires, et finalement, c'est là, et on s'en
va. Ouais, alors c'est vrai que moi, je considère qu'un jeu est très réussi quand, ben, il va te faire, te forcer à utiliser naturellement tous les outils qu'il te donne, quoi.
Et là, c'est le cas. Et donc, c'est quoi ce programme à des nouveautés? Donc, il y a une nouvelle arme, alors que j'ai beaucoup apprécié, je vous en dis pas trop, c'est une petite surprise quand même. Parce que quand je me suis remis à Horizon dans ce DLC, ben il y a une, la complexité des combats, ça a été pour moi en fait le plus gros frein, quoi. Je suis pas spécialement doué dans les combats d'Horizon, et là avec cette nouvelle arme, ça m'a réconcilié avec les bastons de Dino Robot, parce que ça change complètement la donne, voire ça change même le style du jeu.
C'est vrai que dans Horizon 1, les combats, tu joues en
je galère de ouf. Franchement, et dans le 2, j'ai tout autant galéré. Je suis pas une flèche. Il y a aussi un nouveau creuset, donc ça c'est les moments en façon tombeau d'Assassin's Creed. C'est vraiment ultra stylé, j'adore ces moments d'escalade. Nouvelle armure, nouvelle machine, il y a un gros crapaud au robot maintenant, trop stylé. Des nouvelles capacités, il y a deux capacités par arbre de compétences plus une ultime, donc ça fait 15 nouvelles capacités, hein, c'est pas rien. Donc c'est conséquent hein, pour un DLC à 20€ qui dure entre 5 et 10 heures en fonction de votre façon de jouer.
Okay.
Et perso, moi j'ai vraiment pris mon temps et mon temps de jeu il approche plus des 12-13 heures que des 5. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit,
il y a de quoi faire.
J'étais tranquille. Deuxième question, est-ce qu'en achetant un DLC, on attend qu'il sublime le jeu de base? Et si c'est le cas, celui de Burning Shores devrait vous satisfaire. Car en fait, ce DLC, il est exclusif à la PS5. Et donc, l'exploitation de la machine est meilleure que sur le jeu initial qui était cross-platform. C'est aussi un DLC qui vient remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, parce que Horizon 2 a reçu un accueil public et critique, on va dire correct. Mais le jeu, il s'est complètement fait éclipser par la sortie de Elden Ring. Et avec le recul, je trouve qu'on a on est vite passé à autre chose et qu'à ce jour, on se souvient pas assez des qualités du titre. Du coup, le DLC vient nous les rappeler à notre bon souvenir. Techniquement, tout d'abord, tu l'as déjà évoqué même Nico, le jeu, il est sublime, c'est tout simplement le plus beau monde ouvert actuellement. Franchement, il y a zéro débat pour moi. Et ce DLC nous fait aussi réaliser à quel point le jeu est une masterclass en termes de direction artistique. Costumes, coiffures, couleurs, lumière. Moi, je trouve que c'est tout simplement brillant, j'ai trouvé ça énorme.
Ouais, c'est qu'on en parle entre nous, il y a même... Moi, il me faisait penser un peu à FF10 par certains aspects, ouais. L'Horizon 2, cette influence japonaise avec ces tribus qui ont chacune leur identité et tout. Et c'est vrai que dans un jeu occidental, t'as une pour le coup un jeu européen, peut-être que c'est ça la réponse à la question, mais t'as une espèce de bon goût qu'on retrouve pas forcément partout, quoi.
Et comme pour les nouveautés, qui accompagnent par petites touches notre avancée dans ce DLC, l'aspect technique va aussi ponctuer notre aventure par des petites surprises. Alors, il y a des nouveaux effets spéciaux, hein, de la vapeur d'eau, par exemple, des explosions de lave, hein. Le titre s'appelle Burning Shores, donc Shores c'est rivage. On est à Hollywood, hein, vous imaginez, la lave, tout ça, c'est assez mortel. Il y a des éléments du décor qui sont destructibles à présent. Alors, rien de ouf, hein, mais il y a une petite nouvelle mécanique hein, autour de ces éléments destructibles, c'est sympa. Il y a aussi la texture des nuages qui a vraiment été peaufinée. Alors là, vraiment, on a l'impression que je suis en train de lire le dossier de presse, mais franchement, ce travail, pourtant assez précis, va être mis en scène dans une quête secondaire qui est assez sympa. Et donc voilà, c'est inclus dans la narration. Et ça, je trouve ça cool, quoi.
Carrément.
Un truc qui est super impressionnant, et ça a un rapport avec la technique, c'est l'apport d'une nouvelle capacité de vol. Alors, spoiler, à la fin d'Horizon 2, on peut voler hein, sur un ptérodactyle robot. C'est ouf, c'est trop beau, et ça donne un second souffle à la fin de l'aventure. Et bien, dans ce DLC, on pourra à présent faire des piquets depuis le ciel pour aller sous l'eau. Alors, en fait, tu voles tranquille, et là, tu peux foncer vers l'océan, toujours sur ton ptérodactyle, et là, tu vas sous l'eau avec lui.
Comme dans Avatar 2.
Exactement comme dans Avatar 2. Alors, il peut pas y avoir de connivence parce qu'ils ont été développés en même temps. Et donc, c'est canon. Tout se fait sans aucune chute de framerate, sans transition. C'est super stylé. Moi, c'est l'un des trucs... C'est un peu un money shot, tu vois.
Ouais, petit effet wow, quoi.
Alors aussi, il faut savoir que ce DLC se déroule à Los Angeles et non sur l'immense carte d'Horizon 2. On est tout au long de cette petite aventure cloisonnée dans un nouveau lieu et le fait que le terrain de jeu soit plus ramassé facilite un petit peu l'équilibrage et le rythme du jeu. C'est super appréciable et quelque part, ça va dans le sens de ce qu'on disait dans le Red Alert précédent, celui de la semaine dernière. On peut faire plus en faisant moins. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez stylé.
C'est pas compliqué d'accéder au DLC parce qu'il y a des jeux, des fois, c'est un peu alambiqué.
Non.
Faut avoir fini le jeu de base, par contre.
Exactement. En fait, ce DLC, c'est une meilleure version d'Horizon 2. Alors, vous pourriez me dire que le contenu de ce DLC, c'est ce qui aurait dû être dans le jeu de base. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas appréciable de voir que les mois qui séparent le DLC du jeu ont vraiment servi à peaufiner l'expérience? Et que justement, ce DLC n'est pas une partie amputée à dessein du jeu de base pour en faire un contenu payant supplémentaire?
Alors, c'est maintenant qu'on débat un petit peu, là, mais c'est marrant, on en parlait avec Thomas, donc à Maybe, qui justement lui aussi connaît beaucoup les mondes ouverts, tout ça. Et en fait, t'as un peu cet éternel problème, c'est que le DLC, c'est un projet de moindre envergure, moins risqué, donc tu peux te permettre d'expérimenter. Mais à ce compte-là, moi, je reprochais Horizon 2 d'être finalement assez classique, de pas renouveler son approche du monde ouvert, déjà par rapport au premier qui n'était pas forcément le plus innovant là-dessus. Bah, j'aurais aimé que toutes ces innovations-là, elles soient en fait au cœur d'Horizon 2, quoi.
Après Horizon 2, enfin Burning Shores, son DLC reste dans une très grande proportion exactement ce qu'était Horizon 2. Là, c'est un supplément à ce projet, que c'est une meilleure version. Il n'y a pas de révolution, quoi.
Mais c'est vrai que les DLC, c'est un terrain d'expérimentation génial. On parlait des Resident Evil 7 avec tous ces DLC aussi, un peu rigolo, Escape Game et tout. Donc ouais, ça peut être aussi des pistes qui sont lancées pour le futur de la série, comme, alors c'était pas un DLC, mais le Bowser's Fury, qui était un mode supplémentaire au remake Switch de Mario 3D World.
Parce que j'arrête pas de dire que c'est un DLC de Odyssey, moi, donc attention à ce que raconte des potes.
Mais ça peut être le terreau d'un nouveau Mario, peut-être, avec qu'ils ont lancé des pistes là-dessus, quoi.
Ouais, ça peaufine. Troisième question, est-ce qu'en achetant un DLC, on attend qu'il nous surprenne? Alors si c'est le cas, celui de Burning Shores devrait vous satisfaire. Alors c'est sûr, après l'écoute de cette chronique, vous serez un petit peu moins surpris. Mais mon but était quand même de vous donner envie d'y jouer. Néanmoins, j'ai un dernier atout dans ma manche, sachez que le boss de fin du DLC, à lui seul, mérite que vous vous intéressiez. Oui. Alors je vous en dis pas plus. Enfin, quelles que soient vos attentes, que vous souhaitiez que ce DLC vous surprenne, qu'il sublime le jeu de base ou qu'il apporte de la nouveauté, tout ça est conditionné à une chose. Attention, vous allez tomber votre chaise. Cette chose, c'est que Burning Shores est un DLC. Et plus sérieusement, c'est son statut de DLC qui est important et qu'il est nécessaire de prendre en compte. Un DLC, de par son statut, est optionnel. Burning Shores est un contenu périphérique, ce qui veut dire qu'il est à côté. Il est en marge des deux épisodes principaux, que sont Horizon 2 et 1, et le premier du don. Je commence à l'envers. Ce DLC, il est périphérique au même titre que les comics Horizon ou le jeu en réalité virtuelle. Ce sont des contenus qui sont canons, qui sont officiels, qui alimentent le lore, mais de par leur statut périphérique, ils ne peuvent prétendre à un contenu aussi important que ceux des jeux de base. Et donc, c'est ce statut optionnel du DLC qui va sceller les enjeux scénaristiques. Bah oui, concrètement, est-ce qu'on peut imaginer qu'un DLC va proposer un contenu scénaristique nécessaire à la bonne compréhension de la suite de l'histoire? Franchement...
Certains l'ont fait, comme Lord of Shadow, et c'était la pire idée.
Si tu peux attendre une petite seconde, s'il te plaît.
Excuse-moi.
Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut imaginer les développeurs choisir un DLC pour y délivrer des informations fondamentales? Je ne pense pas non plus. Certains ont essayé.
Ah.
Alors, il y a le DLC de Prince of Persia 2008, par exemple, qui, lui, nous montrait tout simplement la fin du jeu. Mais pour passer pour des opportunistes, là, franchement... Il y a pas mieux. Il y a aussi les deux DLC de Lord of Shadow, le Castlevania de Mercury Steam, et là c'était culotté car les révélations de ces DLC, ils étaient vraiment incroyables. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Sur Xbox, la série X est rétrocompatible. Si tu mets le CD, ça marche. La série S, elle a pas de lecteur CD. Mais Lord of Shadow, tu peux le trouver sur le store. En grosse réduc d'ailleurs, il est à moins de 7€ si vous voulez.
Oh.
Mais les deux DLC sont à 10 balles pièce.
Oh.
En revanche, chez Sony, le jeu est dispo en streaming sur le PlayStation Plus, mais il n'y a pas les DLC. Si tu achètes le jeu sur le store, il n'y a pas les DLC. En fait, les deux DLC Rêverie et Résurrection sont absents de la boutique en ligne de Sony. Et si tu as le jeu en CD, bah les DLC sont sur le disque dur de ta PS3. Et la PS4 et la PS5 ne sont pas rétrocompatibles. Donc l'histoire nous montre qu'inclure un contenu essentiel dans les DLC n'est pas une très très bonne idée. De ce fait, de par sa nature de DLC, on sait tous qu'on va vivre dans Burning Shores ne sera pas scénaristiquement bouleversant. Et pour la réalisation de ce genre de DLC, il y a aussi en fait des considérations qui sont, on va dire, structurelles à prendre en compte. Est-ce que le DLC doit être intégré avant ou après la fin du jeu ? Ici, pour se lancer dans Burning Shores, il faut obligatoirement avoir terminé la quête principale. Le DLC se place donc après la fin du jeu.
Ce qui limite potentiellement la cible, du coup.
Alors déjà qu'il y a un phénomène d'attrition important, donc une baisse conséquente entre le nombre de joueurs qui ont fait Horizon 2 et ceux qui vont jouer au DLC, là, en plus, c'est uniquement ceux qui auront terminé l'aventure principale et ceux qui auront une PS5, parce qu'il est exclusif PS5. Alors clairement, le parc de joueurs potentiel est bas, et ça donne pas toutes les chances au DLC. Mais bon, on espère que c'est au moins pour nous raconter quelque chose d'intéressant, à défaut de quelque chose d'essentiel. Et donc Burning Shores est la suite directe de Horizon 2. Aloy apprend qu'un 13e Zénith est en vie et qu'il se cache dans l'ancienne ville de Los Angeles. En arrivant, on rencontre une nouvelle tribu à laquelle appartient notre nouveau compagnon de route, Seika, qui nous accompagnera et nous aidera tout au long du DLC. Les échanges entre les deux personnages, Seika et Aloy, sont plutôt bien sentis. La relation évolue doucement, par bribes, et on sent que quelque chose se construit. Alors, vous êtes forcément au courant, ça a été spoilé et dit absolument partout, mais à la fin du DLC, c'est à nous, joueurs, de choisir si on veut consommer cette relation ou repousser les avances de Seika. Et l'important, ce sont pas les polémiques, les review bombing et tout ce bruit qui sert à rien, mais ce qui est important, c'est que ce choix, il est logique au vu du statut du DLC. On l'a vu, un DLC est par nature périphérique. Par nature, un DLC est optionnel. Si à la fin, le choix d'embrasser ou non Seika nous est proposé, ça n'a rien à voir avec le manque de cran de Guerilla qui, pour certains, cache ou même force une romance. Non, si ce choix est là, s'il est tel qu'il est, c'est uniquement pour coller au statut du DLC. Un DLC est optionnel, tout comme ce choix.
C'est beau.
Et du coup, bah, il est quasi certain hein, que Seika ne soit pas si importante que ça dans la suite. Et la suite de l'aventure d'Aloy, on la connaît. Au programme, on va avoir un jeu multijoueur et un troisième vrai gros épisode d'Horizon, que j'espère être la fin d'une trilogie. Ça, c'est officiel. Ça a été annoncé par le studio. Autre incertitude pour la suite, bah, c'est la présence du personnage de Silence, qui est central dans la saga, hein, qui est interprété par Lance Reddick, qui nous a quittés il y a quelques semaines, le 17 mars. Silence est un personnage très important, c'est lui qui dicte un petit peu les règles dans Horizon. Hein. D'ailleurs, on le voit au début et à la conclusion du DLC, et avant la triste nouvelle concernant l'acteur qui prêtait ses traits et sa voix au personnage, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il allait rester au centre de l'intrigue, ce qui est aujourd'hui fortement compromis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'Horizon 3, est-ce qu'ils sont en train, branle-bas de combat, de tout modifier? Est-ce qu'ils vont se permettre, avec l'accord de la famille, de conserver l'apparence?
Le modèle 3D, changer de doubleur? Je sais pas, c'est vrai que, comme tu dis, c'est après Aloy, c'est le personnage le plus important de la franchise Horizon. Tu peux difficilement faire sans, alors tu pourras toujours trouver des rustines à l'épisode 9 pour dire, dans le laps de temps entre 2 et 3, il a disparu, il est mort ou que sais-je, mais ça sera forcément
une
rustine.
Tu parles Star Wars et de Leia.
Ouais. Mais,
faut vivre là, quand même.
À voir ce qu'ils vont décider de faire. C'est vrai que réutiliser son modèle 3D, peut-être, tu vois, il avait déjà signé, pour pouvoir apparaître dans la trilogie, donc peut-être qu'ils ont le droit, mais est-ce qu'ils ont envie de ça aussi, avec un autre doubleur derrière? Parce que, en plus, c'était un mec qui était très apprécié, qui était aussi un joueur, hein, qui bossait sur plein de projets liés aux jeux vidéo.
Il était dans la série Resident Evil, la dernière Netflix qui a été killée.
Il est dans Destiny, il était dans Quantum Break aussi, enfin.
Ouais.
Et, c'est triste, triste nouvelle là-dessus. Faut voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils en savent rien à l'heure actuelle.
Donc, est-ce qu'on aura le multijoueur avant Horizon 3? En tout cas, voilà. Moi, j'espère vraiment que c'est une trilogie et qu'on a cet Horizon 2 qui ressemble beaucoup, je vous l'avais évoqué, à un Mass Effect 2 où on a vraiment eu un build-up et même un statu quo. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin d'Horizon 2, absolument, on dirait rien ne s'est passé, quoi.
Ouais.
Et là, il faut vraiment qu'il développe. T'avais une idée, je te la laisse la dire, sur Horizon 3, je trouve pas mal, c'est qu'ils partent à l'étranger. Tu t'en souviens?
Non, je...
Tu m'avais dit que là, en fait, c'est très américain.
Oui.
On a traversé les États-Unis, San Francisco, DLC Los Angeles.
Donc, là, ils sont arrivés au bout, donc à part s'ils vont à Honolulu, là.
Est-ce qu'ils vont aller en Amérique du Sud? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, traverser l'océan? Ça serait hyper intéressant.
Ça serait cool, parce que c'est vrai que les jeux américano-centrés, on en a un peu, il y en a beaucoup et on a un peu marre, quoi. Donc, voir justement, imagine, tu vas en France, la Tour Eiffel, là, en mode, post-apo, ce serait trop bien.
Et je trouve que l'idée est excellente parce que on a un parallèle évident qui s'établit entre Assassin's Creed et Horizon au niveau du gameplay, et je trouverais ça génial que ça aille jusqu'au bout et que même le setup changeant et là hop ça y est maintenant on va aller en Europe
maintenant qu'elle peut voler en plus pourquoi pas même à Amsterdam là d'où vient Guerilla peut-être ils ont envie de mettre en avant leur pays mais
ça serait incroyable
en tout cas c'est vrai que la licence a pris une belle ampleur avec les spin-off qui se développent l'univers transmédia et tout c'est une des grosses cartouches de Sony à n'en pas douter on y a une série télé aussi dans les cartons Aloy c'est devenu un personnage phare de la marque
c'est la figure de proue quand vous lancez le jeu ou en tout cas au cinéma ou quand vous voyez les productions Sony, c'est la première que tu vois, c'est
le
vraiment
logo, machin. Mais effectivement, le 2, je pense, a laissé quelques joueurs, sans dire un peu dubitatif, mais un peu, il y a peut-être une mini déception quand même. Et le 3, faudra qu'il tape fort pour vraiment revenir affirmer la licence majeure, quoi.
Évitons la malédiction pour Horizon 3 qui, sur Horizon 1, en fait, s'est frotté à Zelda Breath of the Wild. Non, Horizon, Horizon 2, c'était
Elden Ring.
Elden Ring. Donc
qui vont se retrouver en face? Est-ce qu'ils vont aussi mettre 5 ans entre le 2 et le 3?
J'espère pas. J'espère qu'il faut qu'ils soient sur cette gêne-là. Donc, il faut éviter les balles. Après, c'est les défauts des plannings. Hein. Des fois, tu prévois ton truc. Rappelez-vous, hein, sur Horizon 2, souvent, on entend dire, oui, mais pourquoi vous avez pas décalé Horizon 2? Déjà, décaler un jeu, c'est pas si simple. Oui. Et c'est Elden Ring qui a été reporté. C'est-à-dire que Horizon 2 était placé. C'est Elden Ring qui est venu en disant, hey, salut, je sors 15 jours après. Et en fait, il y avait beaucoup d'événements de par le monde au niveau de la sortie d'Horizon 2. Il y a eu, par exemple, des stations à Paris qui ont été redécorées avec des statues, tout ça. Tu peux pas décaler.
Qui sont bookés.
Une campagne marketing, des 4x3. Partout dans le monde, c'est impossible.
Ouais, mais en tout cas, le premier jeu, c'était très bien vendu malgré tout. Le 2, apparemment, part sur des très bonnes bases aussi. Donc, faut pas non plus croire que c'est une série qui a éclipsé complètement. Ça, hein, elle fonctionne vraiment beaucoup. Le fait de sortir un DLC aussi, je trouve qu'un an, c'est un bon timing. T'as le temps d'avoir renouveau envie d'aller dans cet univers. Et c'est vrai, comme tu dis, le côté forcément annexe d'un DLC, ça peut être aussi un exercice de style, hein, pour, comme on dit dans les séries télé où t'as le bottle episode où ils vont raconter une histoire contenue, ça peut justement, voilà, renouveler tes enjeux, tes persos et tout, et apparemment ça a l'air d'être plutôt bien fait avec un perso que t'as trouvé cool, alors que les persos marquants dans Horizon, il n'y a pas 50 millions, quoi.
Non, franchement, c'est très cool. Et puis ça refait parler de la licence. Sony y croit, hein, le PlayStation VR. Il croit au moins autant au PlayStation VR qu'au jeu Horizon, parce que c'était le gros jeu du
tête de gondole, la seule et unique.
La seule et unique, qui était assez conséquent en plus, hein, pour un jeu VR.
Qui était fait très sérieusement, qui mettait en scène le perso de Aloy aussi, de façon détournée. Enfin,
il y a les comics, on l'a vu sur le logo, Aloy est présente. Ils y croient. Sony, ils y croient, ils le mettent en avant. Donc ils iront, je pense, au bout de cette trilogie. Il faut que la licence passe à la seconde. Et vraiment, moi, cette histoire d'international, je pense, enfin, si le personnage d'Aloy voyage, ça peut vraiment être un game changer qui peut être ultra sexy. Ouais. Et moi, je serais le premier surexcité. Et au niveau du gameplay, je vous en dis pas plus, mais cette nouvelle arme du DLC, il y a un truc. Parce que j'adore les systèmes de combat qui sont très stratégiques, tu mets des pièges et tout, mais je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps galéré sur Horizon.
Mais il est un poil laborieux aussi, je trouve, le système de combat, et t'as les ennemis qui sont pas loin d'être des sacs à PV aussi, donc j'avoue, moi, c'est pas ce que je préfère dans l'aventure, et à chaque fois...
Mais sur le papier, je trouve ça néanmoins ultra excitant. Sur le papier, c'est cool,
mais dans la pratique, je trouve que c'est un petit peu laborieux.
Et ben là, ça change un peu. Avec cette nouvelle arme, ça change un peu.
Et en tout cas, il faut qu'Horizon 3 élève son niveau et aille aussi tirer les leçons des mondes ouverts d'aujourd'hui plutôt que de se reposer sur les bases.
Et ça proposera peut-être une alternative au niveau du système de combat. Peut-être que tu pourras faire de la chasse comme Horizon 1 et 2 et peut-être qu'ils vont partir sur une autre perspective avec ce qu'ils proposent dans le DLC. À voir, franchement. En tout cas, moi, je suis plutôt excité. C'est une série qui, sur le premier et le second Horizon, j'ai jamais crié au génie, mais je commence à y être attaché parce que je sais pas si vous êtes intéressé à l'univers et au lore et au scénario des Horizon. Je trouve que c'est l'un des points les plus forts, alors que il a des points forts, ce jeu. La direction artistique est incroyable. Techniquement, tu vois, on est tous tombés en pamoison à l'époque sur la technique. On en parle presque plus. Le jeu, il est sublime. Enfin, tu voles et tout. Enfin, et franchement, le scénar, c'est un point fort. Donc, quand tu regardes sur le papier, il aligne quand même les grandes qualités, mais il manque un truc, manque un petit truc.
Espérons
qu'il le trouve sur cette Horizon 3. Voilà, j'espère que si vous avez joué à Burning Shores, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà pour ce Red Alert, des chiffres, des DLC, tout ça. Avant de vous parler du programme de la semaine prochaine et même dans 15 jours, mais restez bien, il est temps de vous remercier à tous pour votre soutien, votre participation. Merci pour vos notes que vous mettez sur toutes les applications d'écoute de podcast. Votre meilleur pouce, meilleur com, c'est trop cool. Merci encore. On fait la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo. Et je me tourne vers toi, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de Red Alert.
Il n'y a pas de Red Alert, effectivement, parce que c'est un peu les vacances.
Un peu les vacances.
Donc on aura, par contre, un cerf d'émission, évidemment, on ne vous laisse pas sans rien, donc un cerf d'émission dédié à Grandia.
Exactement.
Donc on a enregistré il y a quelques temps avec Colin Fourtet, qui est l'auteur de notre ludothèque Grandia, que vous pouvez voir en fond, cette collection de livres gratuits qu'on offre aux membres premium, tous les 5 achats.
Voilà.
Et donc là, une belle brochette à disposition.
Donc là, par exemple, on vous a mis derrière nous Ludothèque sur Earthbound et Céleste, des très très bons jeux excellents. Donc si vous voulez en savoir plus sur des formats de livres sœurs, de création d'univers, décryptage, mais sur un seul titre ou une petite saga, il y a aussi cette collection Ludothèque qui est nous qu'on adore, qu'on décline avec ses couleurs, ses jolies couleurs sur les couvertures.
Carrément.
Donc voilà, semaine prochaine, sœur d'émission sur Grandia, je pense que vous allez grave kiffer. Et nous, on revient dans 15 jours.
C'est vrai.
Et donc
nouveau Red Alert.
C'est vrai, tu as tout à fait raison.
Je ne sais pas de quoi je parle.
On parlera.
Toi, tu sais.
Dans tous les cas, voilà, il y aura du Star Wars Jedi Survivor, ça c'est sûr au programme. Et un autre sujet, est-ce qu'on en parlera tous les deux? On ne sait pas, mais revenez dans 15 jours parce que voilà, il y aura Star Wars. Et Star Wars,
c'est cool.
Star Wars, c'est cool, ça fait plaisir. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.
Bye bye.